Souvenir sur l'affaire. Chapitre 2. Quand on se représente, avec le recul de l'histoire, les deux années qui se sont écoulées entre les premiers articles du Figaro et la grâce de Dreyfus, ces deux années de tumulte, de passion, de véritable guerre civile, il y a quelque chose qu'il est difficile d'imaginer. C'est l'état d'esprit du petit groupe d'hommes qui, avant l'ouverture de la campagne, délibéraient entre eux, confrontaient les textes, ajustaient les preuves. Ces Dreyfusards de la veille furent entièrement décontenancés par l'affaire Dreyfus. Ils avaient tout prévu, sauf ce qui devait arriver. Ils avaient tout calculé, hors la résistance et la bataille. Ils méritent quelques excuses, et je voudrais témoigner pour eux. Que le lecteur veuille bien faire un effort et qu'il tâche de se mettre à leur place. J'ai placé la scène au début de l'automne 1897. Les résultats de l'enquête Bernard Lazare et les confidences léguées par le colonel Picard à la veille de son départ pour le sud tunisien se sont alors rejoints et assemblés. Le dossier de l'innocence permet déjà de détruire tous les arguments de l'accusation. Dreyfus a été condamné comme auteur du document connu sous le nom de Bordereau. Or, les expertises et contre-expertises d'écriture permettent de récuser cette attribution, déjà tenue pour incertaine par les juges de 1894. Les rapports de police, soumis au Conseil de guerre, ont tâché de rendre plausible la trahison. Ils ont suggéré des explications d'ordre divers, celles qui se rencontrent couramment dans cette catégorie d'affaires. Habitude de jeu, intrigue de femme, besoin d'argent. Or, tous les faits allégués ou suggérés dans les rapports de police sont mis à néant par des vérifications ultérieures. Des notes officielles ont affirmé que Dreyfus, au retour de la parade de dégradation, avait avoué son crime. Or, des attestations irrécusables montrent qu'il n'a cessé de s'en défendre. Simplement, sans doute, car sa nature était réfractaire aux éclats de voix et de gestes, mais avec un sombre et tenace désespoir. Il est donc impossible d'établir que Dreyfus soit l'auteur matériel du bordereau. Il est impossible de découvrir au prétendu crime des mobiles intelligibles. Il est impossible de suppléer aux preuves absentes par la preuve suprême de l'aveu. Nous savions tout cela, et la charge de la preuve incombant à l'accusation dans toute justice civilisée, nous avions le sentiment que, de la sentence rendue contre Dreyfus, rien ne demeurait debout, qu'elle s'était dissociée, effondrée, évanouie sous nos yeux. Quand les preuves de la culpabilité ont disparu, il ne reste plus rien qu'un innocent. Mais il y avait mieux. Bien que la démonstration complète et topique ne dût être fournie que plus tard, de puissantes présomptions permettaient déjà de supposer que la sentence était frappée de nullité juridique, qu'elle était viciée par la plus grave de toutes les illégalités. Il ne s'agissait pas d'une de ces erreurs ou d'une de ces omissions purement formelles, dont l'avocat prend acte au cours d'un débat d'assises. Non, le droit de la défense avait été outrageusement violé. Pour arracher le verdict de culpabilité à des juges hésitants, et qui hésitaient précisément devant l'absence de preuves, on s'était introduit dans leur délibération. On leur avait exhibé un dossier secret, des pièces secrètes, si secrètes qu'elles ne pouvaient même pas être livrées à une procédure de huis clos. Ces pièces avaient entraîné la conviction du conseil de guerre. Mais ni Dreyfus, ni son défenseur de Mange ne les avaient connues, n'avaient pu les discuter. Nous n'étions pas encore en état d'établir cette illégalité, qui fut le thème dominant de la campagne de Clémenceau dans l'Aurore, qui provoqua l'entrée en lice d'hommes comme Trarieux. Mais nous connaissions le point de départ des filières. Nous savions quel témoignage pourrait être invoqué. Nous étions convaincus que les juges de 1894 seraient les premiers à convenir de la réalité d'un fait dont ils n'avaient nullement aperçu la gravité. Ainsi, nous savions le néant de l'accusation. Nous étions au fait de l'illégalité. Mais il y avait mieux encore. Nous connaissions, nous pouvions nommer le vrai coupable. Quelle chance inespérée! Quand donc les hommes qui ont entrepris de faire reconnaître une erreur judiciaire ont-ils été favorisés de cette bonne fortune? Rien n'est plus rare, ni plus malaisé, que de fournir la preuve positive de l'innocence. Et c'est pourquoi, devant toute justice civilisée, la preuve négative suffit. Je suis innocent si j'ai infirmé devant le juge les faits articulés à l'appui de l'accusation. Mais sur la réalité ou sur la pertinence de ces faits, la controverse peut se rouvrir. J'y coupe court si je fournis la preuve positive par excellence, si je désigne et confonds le vrai coupable. Si tel ou tel individu est convaincu d'avoir commis l'acte qui m'était imputé, c'est que je ne l'ai pas commis moi-même. Dreyfus ne peut pas avoir écrit le bordereau si l'auteur du bordereau se nomme Esterhazy. Grâce à M. de Castro, grâce surtout au colonel Picard, la preuve positive était dans nos mains. Nous étions en état de l'administrer, et avec quelle évidence, avec quel éclat lumineux. Quand on plaçait côte à côte le fac-similé du bordereau et la photographie d'une lettre d'Esterhazy, les expertises ou contre-expertises d'écriture devenaient parfaitement superflues. L'identité sautait aux yeux, car, en écrivant le bordereau, Esterhazy ne s'était pas donné la moindre peine pour déformer son écriture naturelle. La biographie du Uhlan n'était pas encore connue dans tous ses accidents. En particulier, la fameuse correspondance avec sa cousine de Boulancy n'a été révélée que de longs mois après le moment où je me place. Mais les premières informations recueillies avaient permis d'apercevoir ce qui faisait si complètement défaut dans l'acte d'accusation contre Dreyfus, c'est-à-dire les mobiles intelligibles d'une trahison. Esterhazy apparaissait déjà comme un aventurier cosmopolite, comme un mercenaire sans scrupules, perdu de dettes et de vices. Enfin, le Petit Bleu offrait un recoupement définitif et irrécusable. Il montrait que, 3 ans après le transport de Dreyfus à l'île du Diable, l'attaché militaire Schwarzkoppen s'adressait à Esterhazy comme à l'un de ses informateurs et fournisseurs ordinaires. Esterhazy n'était pas seulement l'auteur fortuit du bordereau, il était un espion et un traître professionnel. Devant un tel faisceau de documents et de faits, aucune trace de doute ne traînait dans notre esprit. Notre certitude était pure, entière, sérieuse, et nous étions convaincus qu'elle serait spontanément partagée par l'univers entier, dès que l'univers serait au fait de ce que nous avions appris nous-mêmes. Cette illusion doit sembler extraordinaire aujourd'hui, après coup, quand on considère ce qui s'est passé, mais je crois qu'on la jugera naturelle si l'on a fait l'effort de se mettre à notre place. Les Dreyfusards ont été accusés d'avoir machiné un perfide complot pour pour diviser et déchirer la France. Mais au contraire, il ne soupçonnait pas, et je pense qu'il ne pouvait pas soupçonner, qu'il y aurait une affaire Dreyfus. Tout était pour eux clair, lumineux, évident, et ils ne mettaient pas en question que la raison universelle dût être saisie par cette évidence. Pour l'instant, dans cette fin de vacances, l'opinion publique était calme, indifférente. Elle n'était instruite de rien, elle ne s'attendait à rien. Mais dès que la vérité lui serait produite, quel cri généreux on entendrait s'élever dans la France entière. La nation s'était trouvée unanime pour détester le crime. Elle se retrouverait unanime pour proclamer, pour réparer l'erreur. 3 ans plus tôt, on s'était demandé quel supplice pourrait suffisamment châtier le traître. On allait se demander quel témoignage, quelle récompense pourrait suffisamment réhabiliter la victime. Ceux qui, pour leur malheur, avaient été le plus directement mêlés à la fatale aventure, les juges de Dreyfus, ses camarades, ses chefs, seraient les premiers à professer leur aveu, à confesser leurs remords. Cette perspective nous enchantait. Le seul sentiment aigu, inquiet, qui put trouver place en nous était l'impatience. Car enfin, avant de revenir en France, sous les bravos et sous les fleurs, consolé par la commisération de tout un peuple, l'innocent était toujours là-bas, au fer, sur son rocher torride. Il serait libéré dès que la vérité deviendrait publique. Mais quand le deviendrait-elle? Quel serait le moment choisi? Et nous comptions fébrilement les jours. J'ai mis quelque insistance à décrire cette aberration, à la fois étrange et explicable, du petit groupe d'hommes auquel m'avait agrégé l'amitié de Lucien R. Je l'ai fait parce que mon récit apporte, je crois, quelque chose de neuf à l'histoire romancée de l'affaire, mais surtout parce qu'il en fera mieux comprendre certains aspects. Les premiers Dreyfusards tombèrent de haut. Mais plus puissante avait été leur croyance illusoire en l'accueil, la bienvenue, le consentement universel, plus cruelle fut leur déception, plus véhémente fut leur révolte. Je retrouve en moi le souvenir d'heures à la fois désespérées et furieuses. Pourquoi s'opposait-on ainsi à la vérité, à la justice? Que signifiait cet aveuglement ou cette méchanceté des hommes? Quelles étaient les raisons, les intérêts, les passions qui pouvaient résister avec cette obstination enragée à la simple réhabilitation d'un innocent? Car, à notre immense stupeur, la résistance s'était organisée instantanément. À peine ébranlée par les premières révélations, on la sentit se reformer aussitôt, plus dense encore et plus agressive. Rien ne devait la décourager, pas même le coup de rasoir du colonel Henri, pas même l'enquête de la cour de cassation, pas même son arrêt définitif. À chaque fait établi et acquis en faveur de l'innocence, devait répondre de nouvelles machinations ou de nouvelles fabrications. Le premier dossier secret, celui de 1894, corroboré par le second, celui de Cavaignac. Les faux justifiés par d'autres faux. Les juges civils discrédités ou dessaisis à mesure qu'ils penchaient vers la révision. Le système du faux patriotique, la légende du faux impérial. En fin de compte, la résistance des patriotes alla jusqu'à la tentative de coup d'État. Le jour des obsèques de Félix Faure, dans la cour de la caserne de Reuilly, Paul Déroulède essaya d'entraîner sur l'Élysée les régiments du général Roger. pourquoi n'acceptait-on pas que Dreyfus fût innocent? Ou plutôt, pourquoi n'acceptait-on pas que son innocence fût reconnue? Comment des gens sincères ont-ils été anti-Dreyfusards? Comment d'honnêtes gens se sont-ils délibérément proposés pour but de sauver à tout prix cette Esterhazy que, dans leur fort intérieur, ils qualifiaient tous comme nous, c'est-à-dire comme un gredin du plus bas étage? Qu'est-ce qui les animait? Qu'est-ce qui les dirigeait? Aujourd'hui, à 35 ans de distance, envisageant ce passé avec une raison mûrie et refroidie, il me semble que des éléments d'intelligence me manquent encore. Je me rends compte assurément, et mes plus proches amis en eurent le sentiment à l'heure même, que la campagne de révision fut engagée avec gaucherie, avec embarras, par conséquent avec maladresse. Nous nous étions imaginés que l'opinion serait surprise et conquise d'un coup, comme nous l'avions été nous-mêmes, par une divulgation soudaine, totale, irrésistible de la vérité. C'est ainsi que nous avions conçu l'opération. Toutes les lueurs projetées à la fois, toutes les vannes ouvertes, quelque chose d'éblouissant et de torrentiel. Pas du tout. Le journal, qui s'était offert le premier à la cause révisionniste, Le Figaro, procéda par une instillation goutte à goutte. On vit se succéder de jour en jour de courtes notes, habiles, enveloppantes, progressives, pleines de mots couverts et de sous-entendus intelligibles pour les seuls initiés, qui sans doute piquaient la curiosité, mais qui éveillaient aussi une sourde méfiance. Qu'est-ce que cela veut dire? Où veut-on en venir? Qu'y a-t-il là-dessous? De telles interrogations préparaient mal au grand soulèvement enthousiaste dont le mirage nous avait enchantés. Je me rappelle parfaitement combien Barrès, durant les quelques semaines de flottement où il hésitait encore sur son parti définitif, fut irrité par cette préparation lente, insinuante, détournée, qui laissait visiblement entendre plus qu'elle ne disait, mais qui peut-être aussi tâchait de faire soupçonner plus qu'elle ne savait. Dans cette critique rétrospective des opérations, je suis obligé de marquer ici l'erreur funeste que commirent les stratèges supérieurs de la campagne révisionniste, c'est-à-dire Mathieu Dreyfus et ses conseillers intimes, Scherer Kestner et Joseph Reinhardt. Erreur que les circonstances du moment excusent d'ailleurs en grande partie. D'abord, pour lâcher toute la vérité, pour projeter toutes les lueurs et ouvrir toutes les vannes, il aurait fallu découvrir à fond le colonel Picard. Picard, protestant strasbourgeois, benjamin de la haute armée, destiné d'avance aux plus grandes charges militaires, n'était pas seulement la caution morale de l'innocence. La preuve matérielle, la preuve positive reposait pour la plus large part sur son témoignage. Le colonel Picard n'appartenait pas à une famille protestante, mais catholique. Il était lui-même catholique pratiquant, comme tous les siens. Je l'avais su, mais j'aurais dû m'en souvenir. Cette erreur m'a été signalée par un membre honoraire de l'université qui porte un nom respecté dans l'histoire de l'école républicaine. Or, Picard était soldat, astreint à la discipline et au silence que la discipline implique. Comme il ne voulait pas emporter son secret dans la tombe, il s'était confié à son ami Le Blois au moment de quitter Paris pour sa dangereuse garnison tunisienne. Mais il n'avait pas autorisé Le Blois à jeter son nom, son grade, les secrets surpris grâce à son emploi, dans une controverse publique qui pouvait atteindre certains de ses camarades et de ses chefs. Le Blois et Scherer Kestner, dépositaires directs et indirects de la confidence, n'osaient ni forcer les intentions de Picard, ni devancer ses résolutions. Mathieu Dreyfus, dans sa grandeur chevaleresque, s'en remettait à Leblois et à Scherer Kestner. Il se refusait à payer le salut de son frère au prix d'un abus de confiance morale commis contre Picard. Il y avait là sujets assez grands de délibération qui font la substance de nos tragédies et où les opinions antagonistes sont également nobles. Mais, en attendant, l'attaque sur l'opinion publique vacillait, titubait, parce que ce débat de conscience faisait trembler les mains qui la dirigeaient. Voilà la première explication. J'en aperçois une seconde qui d'ailleurs se lie quelque peu à la première. En ce début de l'affaire, ni Joseph Reynac, ni Scherer Kestner, ni par conséquent Mathieu Dreyfus ne désespéraient de la régler par voie d'entente amiable avec le gouvernement. S'ils avançaient à pas si comptés, si ménagés, c'était assurément par scrupule vis-à-vis de Picard. C'était aussi pour se donner le temps de négocier avec le ministère et pour ne pas compromettre le succès de la négociation par le scandale. Quel était le but ? Réparer une iniquité, sauver un homme. Quel était le moyen ? La révision juridique de la condamnation qui avait frappé Dreyfus. C'est au gouvernement que la loi française remet le pouvoir exclusif d'ouvrir une procédure de révision. Rien n'était donc possible sans le gouvernement. Si le gouvernement convaincu tombait d'accord, tout s'arrangeait de soi-même, il n'y avait plus de questions, il n'y avait plus d'affaires. Or, le chef du gouvernement d'alors, Jules Méline, son ministre de la guerre, le général Billot, était, tout comme Joseph Reynac et Scherer Kestner, d'anciens amis ou d'anciennes créatures de Gambetta. Ils avaient appartenu, les uns comme les autres, au cercle intime des fidèles. La piété commune vis-à-vis du maître les avait liés d'une étroite solidarité. Joseph Reynac et Scherer Kestner se croyaient en droit de compter sur Méline et sur le général Billot. Je ne mets pas en doute que leur illusion ait été soigneusement entretenue par le président du Conseil et par son ministre de la guerre. Ni Jaurès, ni Air, ni sans doute Clémenceau ne la partageaient. Ils ne croyaient pas à la bonne foi de Méline. Ils déploraient le temps passé et l'occasion perdue. Ils sentaient bien que la chance de Dreyfus dépendait des premiers coups frappés, qu'elle était suspendue à une commotion, à un effet de surprise et de saisissement. Et c'est cette chance que l'on gâchait. On ne gagnerait pas Méline et Billot, qui roulaient visiblement les Dreyfusards, ne cherchaient qu'à gagner du temps, qu'à amortir l'attaque, qu'à organiser la défense. Au lieu de trafiquer avec ces deux malins, il fallait marcher de l'avant, sans crier gare, sans se laisser arrêter par rien. Il fallait tout clamer, tout bousculer. Ce fut la première divergence sensible entre ceux que j'appellerais, pour marquer une différence de tempérament autant qu'une dissemblance d'esprit, les politiques et les révolutionnaires. Au cours de l'affaire, ce litige devait se reproduire plus d'une fois et l'occasion la plus dramatique fut la grâce. Peut-être Mathieu Dreyfus, s'il n'avait cédé qu'à son inclination naturelle, eût-il penché du côté de Jaurès plutôt que du côté de Reynac. Mais il était le représentant, le tuteur du frère absent. Le capitaine Dreyfus, n'ayant jamais attendu qu'une réparation régulière et hiérarchique, Mathieu exécutait cette volonté. À ces raisons déjà fortes, je veux en ajouter encore une qui étonnera probablement mes lecteurs. Le détail où je vais entrer est à peu près inédit, je crois, et il permettra de juger avec quel optimisme candide, avec quelle ingénuité fut engagée la campagne dreyfusiste. Ces courtes notes du Figaro, si lourdes de mystère pour le lecteur banal, il y avait du moins un être au monde à qui leur sens redoutable ne pouvait échapper. C'était le vrai coupable, c'était Esterhazy. Esterhazy savait bien, lui, qu'il était le coupable. Il pouvait comprendre du premier coup d'œil qu'il était découvert, que les preuves de son crime étaient réunies, qu'il était guetté par le châtiment. Quel serait son réflexe instinctif de défense? Très probablement la fuite. Oui, nous avons vécu quelques semaines durant dans l'espérance qu'Esterhazy démasqué passerait un beau matin à la frontière. Dreyfus n'avait jamais avoué, mais à tout l'appareil amassé contre Esterhazy, nous pourrions ajouter cet aveu tangible, patent, la fuite. Nous nous disions, il sera parti avant que nous ayons pris le temps de le nommer. Un curieux incident se produisit alors. Le Figaro, sans prononcer encore le nom d'Esterhazy, l'avait désigné par un petit jeu de précision et de périphrase. Un autre journal, je ne sais lequel, poursuivit ce jeu. Il rechercha dans les annuaires à quel officier pouvaient s'appliquer les précisions et périphrases du Figaro. Mais il tomba mal et il imprima en toutes lettres le nom d'un autre officier qui, de près ou de loin, n'avait quoi que ce soit de commun avec l'affaire. Ce nom traîne encore dans ma mémoire, mais je n'ai nulle raison de l'en tirer. Un grand débat divisa les stratèges. Ne valait-il pas mieux laisser les choses en suspens, attendre encore, avant de dénoncer nominativement le Uhlan? La chance n'était pas épuisée, il pouvait fuir encore. Mathieu Dreyfus trancha le cas à sa façon ordinaire. Il ne pouvait pas supporter l'idée que l'ombre d'un soupçon continuât à peser sur un honnête homme. Et comme l'unique moyen de l'en dégager absolument était de mettre les points sur les i et le nom sur les périphrases, il décida qu'Esterhazy serait mis personnellement en cause sans autre délai. On pourra railler notre naïveté, mais nous déplorâmes entre nous ce contretemps qui nous paraissait funeste. Qui sait? Après un cuisinage prolongé de quelques jours, Esterhazy aurait peut-être pris le train pour la Belgique ou même pour l'Allemagne. La tactique du goutte-à-goutte, contre laquelle nous nous étions vainement gendarmés, était désormais frustrée du seul avantage appréciable qu'on pût en attendre. Nous ne nous doutions pas, le moins du monde, qu'Esterhazy était de longue main averti de tout, préparé à tout. Il n'aurait pris le train pour Bruxelles ou pour Berlin ni la semaine suivante, ni le mois suivant. Il était résolu à faire tête parce qu'il savait que les plus puissants protecteurs étaient résolus à faire tête pour lui. Depuis l'enquête de Picard et son départ du ministère de la guerre, l'arsenal de défense s'était muni de toutes les armes nécessaires. Il y avait réplique à tous les arguments, à tous les faits, à tous les documents. La fausse pièce, où figurait en toutes lettres le nom de Dreyfus, était déjà sous sa cotte dans le coffre-fort du deuxième bureau. Le scénario de l'intrigue, tendant à arguer de faux le petit bleu, et par conséquent à disqualifier Picard, était établi. Des lignes de repli successives étaient déjà aménagées. En un mot, sans que nous eussions le plus léger soupçon, la résistance était prête.